Pour les Fremen, elle est la figure de la terre, une semi-déesse dont le rôle est de protéger les tribus des effets de la violence. Elle est la révérende mère de toutes les révérendes mères. Elle représente également un pouvoir anti-mentat et les pèlerins lui demandent souvent de leur ramener virilité ou fécondité. Elle répond à ce besoin de mystère si puissant chez les êtres humains. Elle constitue la vivante preuve des limitations de l'analytique. Elle est l'ultime tension, la vierge prostituée, spirituelle, vulgaire, cruelle, dont les caprices sont aussi ravageurs qu'une tempête de Coriolis. Sainte Alia du couteau, selon le rapport d'Irulan. Pareil à quelques noires sentinelles, Alia se tenait immobile sur le parvis sud de son temple, l'autel de l'oracle, que les Fremen des cohortes de Paul avaient édifié contre l'une des murailles de la citadelle. Alia haïssait cet aspect de sa vie, mais elle savait qu'elle ne pouvait fuir le temple sans provoquer la destruction générale. Chaque jour, les pèlerins étaient plus nombreux. Maudits pèlerins. Ils s'agglutinaient sous le porche inférieur en une masse sombre où les marchands se distinguaient à peine des sorciers mineurs, devins et guérisseurs, pitoyables imitateurs de Paul Muad'Dib et de sa sainte sœur. Les paquets verts et rouges des cartes du tarot de Dune étaient à tous les éventaires, et Alia se posait des questions à ce propos. Qui donc avait introduit le jeu sur le marché? Pourquoi était-il devenu à ce point populaire précisément en ce lieu? Cela avait-il quelque chose à voir avec cette occultation du temps? Ceux qui vivaient par l'épice devenaient toujours sensibles à la prémonition. Les Fremen en particulier étaient d'une crédulité notoire. Pouvait-on considérer comme un accident le fait qu'ils se passionnaient pour les présages et les signes de l'avenir? Alia décida de chercher une réponse à ces questions dès que possible. Le vent du sud-est s'était levé. Il arrivait sur la cité, émoussé par la barrière rocheuse du bouclier qui apparaissait comme une ligne orange au sein de la poussière baignée des ultimes rayons du soleil. Un vent tiède, presque chaud sur les joues d'Alia. Il éveillait en elle le regret douloureux du sable, de la sécurité des espaces libres. Les derniers fidèles descendaient maintenant les immenses marches de pierre verte qui accédaient au porche. Des groupes se formaient parfois devant les éventaires des marchands où étaient disposées amulettes saintes et porte-bonheur. Quelques pèlerins consultaient des sorciers mineurs. Tous, badauds, pèlerins, fremen, marchands, formaient une route mouvante et sombre qui rejoignait l'avenue bordée de palmiers qui menait au centre de la cité. Alia décelait au premier coup d'œil les fremen, à la façon qu'ils avaient de se maintenir à l'écart des autres, presque farouchement, à leur expression figée dans la superstition absolue. Ils incarnaient tout à la fois pour elle une force et une menace. Ils continuaient de capturer les vers géants des sables pour le sport et pour le sacrifice. Ils étaient hostiles aux pèlerins des autres mondes, supportaient difficilement les citadins des creux et des sillons et haïssaient le cynisme qu'ils percevaient chez les vendeurs d'amulettes. Nul, même dans la foule qui se pressait aux abords du temple, ne se serait risqué à provoquer un fremen. Bien sûr, le port du couteau était prohibé dans les alentours du lieu saint, mais on avait souvent retrouvé des corps. Plus tard, la poussière soulevée par les pieds innombrables avait une senteur de silex qui redoubla la mélancolie d'Alia. Les images du passé, songea-t-elle, avaient été affinées, semblait-il, par la venue du Gola. Durant les jours sans problème qui avaient précédé l'accession de son frère au trône, elle avait connu la joie, le plaisir des petites choses, le bonheur d'un matin frais, d'un crépuscule. Le temps. Le danger lui-même avait eu un autre goût alors. C'était un danger bien net, dont les sources étaient reconnues. Il n'avait jamais été utile, dans ces jours disparus, de chercher à repousser les limites de la prescience, de lutter contre des voiles sans cesse plus épais pour de brèves visions de l'avenir. Les Fremen sauvages exprimaient cela ainsi. Il est quatre choses que l'on ne peut cacher. L'amour, la fumée, une colonne de feu et un homme dans le désert. Avec une brusque sensation de dégoût, Alia quitta le parvis pour les ombres de l'autel et suivit le balcon qui dominait les profondeurs opalescentes de la salle des oracles. Le sable crissait faiblement sous ses pas. Les suppliants amenaient toujours un peu du désert avec eux dans les chambres sacrées. Sans accorder la moindre attention aux serviteurs, aux gardes, assistants et sycophantes de la Cuisarat, elle s'engagea dans l'escalier en spirale qui montait vers ses appartements. Tout en s'avançant entre les divans, les tapis profonds, les draperies et les choses du désert, elle congédia les Amazones Fremen que Stilgar avait assignées à son service personnel. « Des chiennes de garde », songea-t-elle. Un instant après, quand les Amazones se furent éclipsées avec force murmures et objections, cédant à la crainte que leur inspirait Alia, bien supérieure à celle que Disti et Stilgar, elle put se dévêtir et se diriger vers son bain, ne gardant que le kris pendu à son cou. Maintenant, elle le savait, il était tout prêt. Ce n'était encore qu'une silhouette d'ombre qu'elle décelait dans son avenir sans pouvoir la distinguer vraiment, une forme d'ombre sans chair. Elle sentait s'éveiller sa colère devant l'impuissance de ses pouvoirs prescients. Cette forme, elle ne la découvrait qu'à certains moments inattendus, alors qu'elle sondait d'autres existences. Parfois, en des lieux de ténèbres et de désolation, des lieux, quelque part dans le temps, où l'innocence s'alliait au désir, elle reconnaissait cette silhouette brumeuse, immédiatement de l'autre côté d'un horizon oscillant sans cesse. Dessein imprécis dont elle se disait qu'il eût suffi pour le préciser, d'accroître ses pouvoirs jusqu'à une intensité que jamais encore il n'avait atteinte. Il était là, assaut permanent contre sa conscience, dangereux, immoral, terrible. Elle entra dans son bain et se plongea dans l'eau tiède, saturée d'humidité. C'était là une habitude qu'elle tenait des innombrables entités mémorielles de révérendes mères qui, dans son esprit, étaient comme des perles sur un fil scintillant. L'eau tiède enveloppa son corps. Ses pieds glissèrent doucement sur les dalles vertes et rouges, et les figures marines se déformèrent dans les vaguelettes suscitées par ses gestes. Il y avait tant d'eau dans ce petit espace. Les vieux Fremen auraient été outrés de l'avoir employé pour le seul plaisir du bain. Il était tout prêt. Non, songea-t-elle, ce n'est que l'effet du désir luttant contre la chasteté. Sa chair avait besoin d'un homme. Le sexe ne conservait que peu de mystère pour une révérende mère qui avait présidé à tant d'orgies de siège. La perception tôt de ses autres moi pouvait lui présenter tel ou tel détail dont sa curiosité était avide. Et cette impression de proximité n'était sans doute rien d'autre que l'appel de la chair à la chair. L'eau chaude provoquait une léthargie que combattait le besoin d'action. Brusquement, Alia sortit du bain et, nue et dégoulinante, passa dans la chambre d'entraînement attenante à sa chambre à coucher. C'était une pièce rectangulaire à ciel ouvert où se trouvait l'ensemble des instruments, du plus subtil au plus rustique, qui permettaient à une Bene Gesserit d'atteindre la phase idéale de préparation physique et psychique. Il y avait là des amplifications mnémoniques, des moulins digital Dix destinés à raffermir et sensibiliser les perceptions des doigts et des orteils, des synthétiseurs olfactifs, des sensibilisateurs tactiles, des champs de gradient de température, des détecteurs de répétition pour combattre les habitudes, des moniteurs à ondes alpha, des synchronisateurs de perception pour analyse de la vision. Sur l'un des murs, elle avait inscrit de sa propre main à la peinture mnémonique, en caractère de 10 cm, la formule clé du credo Bene Gesserit. Avant nous, l'ensemble des méthodes d'enseignement était marqué par l'instinct. Nous avons appris à apprendre. Avant nous, les chercheurs dominés par l'instinct ne possédaient qu'une marge d'attention limitée bien souvent à la seule durée d'une vie. Jamais ils ne mirent en œuvre des projets portant sur 30 ou 50 générations. Le concept même de l'éducation complète du système nerveux et musculaire n'apparut jamais alors. À l'instant où elle franchissait le seuil de la chambre d'entraînement, Alia perçut un millier de reflets fugaces de son image dans le miroir à escrime qui tournait au centre du mannequin cible. La longue épée l'attendait, et elle songea « Oui, c'est cela. Je vais m'exercer jusqu'à l'épuisement, vider ma chair et éclaircir mon cerveau. » Elle prit l'arme en main et en éprouva le contact. De la main gauche, elle sortit le kris du fourreau placé contre son cou et le pointa à gauche. De l'épée, elle enclencha le dispositif d'exercice. L'aura du champ de force se déploya autour du mannequin, repoussant la lame. Dans un scintillement de prisme, la cible se porta sur la gauche. Alia pivota, l'épée pointée, songeant ainsi qu'elle le faisait souvent, que le mannequin avait quelque chose de vivant. Mais il n'y avait dans la cible, étrange et rapide, que des cerveaux moteurs et de complexes circuits de réponse calculés pour feinter, déconcerter et obliger l'escrimeur à plus d'attention et de vigilance. Le mannequin n'était qu'un instrument qui réagissait comme elle, un anti-moi qui se déplaçait en même temps qu'elle, parait ses attaques, manœuvrait et rompait lorsqu'elle se fendait, contre-attaquait. Dans les prismes de la cible, de multiples lames semblaient la menacer, dont une seule était réelle. Rapidement, Alia exécuta un contre, feinta et pointa sa lame à la vitesse requise pour pénétrer le bouclier énergétique. Quelque part entre les prismes, un voyant rouge scintilla brusquement, distraction supplémentaire. La chose contre-attaqua un peu plus rapidement qu'auparavant, réagissant au point marqué. Alia se déroba et, abandonnant toute prudence, frappa du kris. Deux voyants s'illuminèrent dans les prismes. Le mannequin accéléra encore sa contre-attaque. Il ressemblait soudain à un monstrueux aimant monté sur roue, sans cesse attiré par la pointe de l'épée d'Alia. Attaque, feinte, contre. Quatre voyants s'étaient allumés maintenant, et le mannequin devenait de plus en plus dangereux et rapide, déconcertant, imprévisible. 5. La sueur brillait sur le corps nu d'Alia. Elle vivait maintenant dans un univers différent, limité par les attaques et les ripostes, les traits brillants des épées, les reflets des lumières dans les prismes. Elle ne voyait que la cible, ne sentait que le contact du sol sous ses pieds nus qui dansaient. Attaque, feinte, contre. 6 voyants étaient allumés maintenant. 7. 8. Jamais encore elle n'avait atteint ce résultat. Tout au fond de son esprit, en 7 secondes, un sentiment de danger apparut. Cet appareil qu'elle affrontait, cet ensemble de prismes et de relais, ne pouvait penser ni obéir à la prudence, pas plus qu'il ne pouvait éprouver de remords. Et il était muni d'une lame bien réelle. L'exercice sans cela n'aurait eu aucune valeur. La lame du mannequin pouvait blesser, tuer. Les meilleurs bretteurs de l'Empire ne se permettaient jamais d'affronter la cible au-delà de 7 voyants allumés. 9. Le signal de danger fut balayé par un suprême sentiment d'exaltation. La lame adverse formait maintenant comme un brouillard, et dans la main d'Alia, l'épée semblait douée de vie. Elle était devenue une anti-cible. L'épée conduisait. 10. 11. Quelque chose brilla près de son épaule, ralentit en pénétrant l'aura du bouclier du mannequin, le traversa et vint frapper le contact d'arrêt. Les prismes s'obscurcirent, s'immobilisèrent. Furieuse, elle se retourna, consciente cependant de l'extraordinaire précision avec laquelle le couteau avait atteint la cible. La vitesse avait été très exactement calculée pour pénétrer le champ. Lancé trop fort, le couteau eût été repoussé, dévié. Pour désactiver le mannequin, il avait fallu que la pointe atteigne très précisément un point d'un millimètre de diamètre. Tout comme le mannequin, Alia déconnecta ses émotions, sa tension. Paul la regardait, immobile, à quelques pas du seuil. Elle ne fut pas surprise. Lui seul avait pu lancer ainsi ce couteau. Stilgar se tenait à 3 pas en arrière. Elle lut de la colère dans les yeux mi-clos de son frère. Elle prit conscience de sa nudité, songea une seconde à se vêtir, puis éprouva de l'amusement à cette idée. On ne pouvait effacer ce que les yeux avaient vu. Lentement, elle remit le kris dans son fourreau, contre son cou. « J'aurais dû le savoir,
dit-elle. Je suppose que tu n'ignorais rien du danger, dit Paul.
Lentement, consciencieusement, il lisait les émotions de sa sœur sur son visage, sur son corps. Il voyait son épuisement sur ses lèvres humides et gonflées, sur sa peau colorée. Elle offrait à ses yeux, en cet instant, une image parfaitement féminine qu'il n'avait jamais associée à elle.
Il éprouvait un sentiment d'étrangeté. Ce corps ne correspondait plus au cadre familier qu'il avait cru fixe.
« C'était de la folie !» gronda Stilgar en s'avançant.
Il éprouvait de la fureur, songea Alia, mais aussi de l'admiration. Elle le voyait très nettement dans le regard du Fremen.
« 11, dit Paul en secouant la tête. « J'aurais atteint 12 si tu n'étais pas intervenu, dit-elle.
Elle sentit qu'elle pâlissait sous son regard fixe et ajouta « Pourquoi a-t-on prévu autant de voyants ?»
Comment une Bene Gesserit peut-elle s'interroger sur les motivations qui sont à la base d'un système ouvert ?
Je suppose que tu n'es jamais allé au-delà de 7, lança-t-elle, à nouveau pleine de colère.
Une fois, dit Paul, cela m'est arrivé.
Gurney Alec m'a surpris à 10. Il m'a infligé un châtiment humiliant que je ne peux te rapporter. Mais puisque nous en sommes aux choses embarrassantes,
la prochaine fois, peut-être te feras-tu annoncer, dit-elle.
Elle gagna sa chambre, revêtit une robe grise et se mit à brosser sa chevelure devant le miroir. Elle se sentait envahie d'une tristesse diffuse, imprégnée de sueur, comme après un acte d'amour. Elle n'avait plus qu'une envie, se baigner une fois encore et dormir.
« Pourquoi es-tu venue ? » demanda-t-elle sans se retourner.
« Monseigneur, » dit Stilgar.
Il y avait un accent insolite dans sa voix, qui la força à se retourner.
Aussi étrange que cela puisse paraître, dit Paul, nous obéissons à une suggestion d'Irulan.
Elle pense, et cela semble confirmé par divers renseignements de style, que nos ennemis s'apprêtent à une initiative capitale pour
Monseigneur,
répéta Stilgar, élevant la voix d'un ton. Paul se retourna, intrigué, mais Alia ne quitta pas des yeux le vieux Naïb. En cette minute, elle avait intensément conscience de sa qualité. Il était l'un des anciens, un primitif. Il croyait en un monde surnaturel et proche à la fois. Un monde avec lequel il communiquait en un langage simple de paysan qui ne souffrait pas les doutes. L'univers naturel dans lequel Stilgar existait était redoutable, incoercible, sans trace de la morale commune de l'Empire.
« Eh bien, Stil, » dit enfin Paul.
« Veux-tu lui dire pourquoi nous sommes ici ?»«
L'instant ne s'y prête pas. »
« Qu'y a-t-il ? » Sans quitter Alia des yeux, Stilgar demanda.
« Monseigneur, êtes-vous donc aveugle ?»
Paul se retourna vers sa sœur, envahi par un brusque sentiment de malaise. De tous ses proches, seul Stilgar osait lui parler ainsi. Mais il ne le faisait qu'en certaines circonstances.
« Il lui faut un compagnon. Si elle ne s'accouple pas très vite, « nous allons au-devant d'ennui. »
Alia pivota, le visage brûlant.
« Comment a-t-il pu ?» se demanda-t-elle.
Son self-control, Bene Gesserit, avait été impuissant. Comment Stilgar avait-il été capable de percer ainsi ses défenses ? Il ne possédait pas la voix. Soudain, elle était troublée, inquiète, furieuse.
« Écoutez donc le grand Stilgar !»
s'exclama-t-elle en leur tournant brusquement le dos, parfaitement consciente du ton acide de sa voix.
« Avis aux filles ! Stilgar le Fremen leur parle !»«
Je vous aime autant l'un que l'autre, » dit Stilgar d'une voix pleine de dignité. « Aussi je dois parler. Si j'étais resté aveugle aux émotions des hommes et des femmes, jamais je ne serais devenu un chef entre les Fremen. Pour comprendre cela, il n'est nul besoin de pouvoir mystérieux. »
Paul réfléchit rapidement. Comparant la déclaration de Stilgar aux émotions viriles qu'il avait éprouvées en découvrant sa sœur. Oui, il y avait en elle quelque chose de violent, quelque chose de la femelle en rut, de la femelle sauvage. Pourquoi se livrait-elle à cet exercice de combat complètement nu, par exemple? Et pourquoi risquait-elle sa vie par excès d'audace? 11 voyants allumés. Le mannequin cible était un appareil, un simulacre de créature,
mais il portait en lui tous les ferments de l'horreur. Objet du présent, il gardait en lui un peu de l'immoralité des temps anciens. Jadis, les hommes s'étaient laissés guider par des intelligences artificielles, des ordinateurs. Le djihad butlérien avait mis un terme à cet âge, mais il n'avait que partiellement triomphé de l'aura de vice du monde aristocratique qui continuait d'utiliser des machines. Bien sûr, Stilgar avait raison. Alia avait besoin d'un compagnon. «
Je veillerai à cela, » dit Paul.
« Alia et moi, nous en discuterons plus tard. En privé. » Elle se retourna et son regard se posa sur son frère. Elle savait comment fonctionnait son esprit et comprenait qu'elle était l'objet d'une décision de Mentat. Une décision qui était le résultat de multiples faits analysés par cet ordinateur humain. C'était là quelque chose d'inexorable, comparable au mouvement des mondes autour des étoiles. Les démarches des Mentat participaient de l'ordre de l'univers.
« Sire, » reprit Stilgar, « peut-être devrions-nous… »«
Pas maintenant, » lança Paul. « Nous avons d'autres problèmes. » Certaine qu'elle ne pouvait affronter son frère sur le terrain de la logique, Alia repoussa les derniers instants de ses préoccupations et demanda « C'est donc Irulan qui t'a envoyé ?» Dans le même temps, elle sentait la menace contenue dans ces simples mots. « Indirectement, » dit Paul. « L'information qu'elle nous a transmise confirme nos soupçons. La guilde s'apprête à capturer un ver des sables.
« Un petit, » intervint Stilgar, « dans l'espoir de créer un nouveau cycle de l'épice sur un autre monde. Ce qui signifie qu'ils ont trouvé un monde où ce soit possible. »
Ce qui signifie aussi qu'ils ont des complicités Fremen sur Dune, dit Alia. Jamais un étranger ne parviendrait à capturer un ver.
Cela va sans dire, admit Stilgar.
Non, insista-t-elle. Paul, tu as certainement...
La corruption s'installe, dit Paul. Nous en avons conscience depuis quelque temps. Jamais je n'ai vu cet autre monde pourtant. Et c'est bien ce qui m'inquiète.
S'il... Cela t'inquiète ?
Mais cela signifie simplement qu'ils ont réussi à dissimuler sa situation grâce aux navigateurs de la guilde, de la même manière qu'ils dissimulent leur sanctuaire.
Stilgar ouvrit la bouche, mais se tut. Il lui venait tout à coup le sentiment que ses idoles assumaient une faiblesse blasphématoire. Paul devina les pensées du Fremen.
Il y a un problème immédiat. J'ai besoin de ton avis, Alia.
Stilgar suggère que nous renforcions nos patrouilles dans le bled ainsi que la garde des sièges. Il est possible que nous détections le groupe de débarquement et que nous empêchions le...
Avec un homme de la guilde pour veiller sur eux?
Ils sont forcés dans leur dernier retranchement, non?
C'est bien pour cela que je suis ici en ce moment.
Mais qu'ont-ils donc vu que nous n'ayons pu voir? Demanda-t-elle.
Précisément.
Alia hocha la tête. Toutes les pensées qu'elle avait eues concernant le tarot de Dune lui revenaient maintenant. Elle fit part de ses craintes à son frère.
« Une couverture, en quelque sorte, » dit-il lentement.
« Déployée sur nous. »
« Avec des patrouilles judicieusement établies, » intervint Stilgar. « Nous pourrions empêcher le... »«
On ne peut rien empêcher éternellement, » dit Alia.
L'impression qui lui parvenait de Stilgar lui était déplaisante. Il avait rétréci son champ de vision, éliminé l'essentiel, l'évident. Ce n'était pas là le Stilgar qu'elle avait toujours connu.
« Il nous faut compter avec le fait qu'il réussisse à capturer un ver, » dit Paul. « Quant à reprendre le cycle du mélange sur un autre monde, c'est un problème bien différent. Il leur faudra sans doute plus qu'un ver pour cela. »
Le regard de Stilgar alla du frère à la sœur. Le Sietch avait laissé en lui une compréhension intuitive des phénomènes de l'écologie, et il percevait ce que l'un et l'autre voulaient dire en cet instant. Un ver captif ne pourrait survivre sans une parcelle d'arakis, sans un peu de plancton des sables, sans les petits faiseurs. La guilde affrontait un problème colossal, mais qui n'était pas insoluble. Non. L'incertitude grandissante qu'éprouvait Stilgar intéressait un autre domaine.
Ainsi donc, demanda-t-il, vos visions ne peuvent vous révéler les agissements de la guilde?
Damnation!
Cria Paul. Alia ne quittait pas Stilgar des yeux,
consciente de l'afflux sauvage des idées dans le fond de son esprit. Il se trouvait suspendu entre d'autres prodiges.
Magie. Magie que tout cela.
Entrevoir l'avenir équivalait à dérober quelques feux terrifiants dans un foyer sacré. Cela portait en soi l'attrait du péril ultime, des âmes aventurées, perdues. De lointains informes et dangereux, on ramenait parfois la puissance, la forme. Mais Stilgar, maintenant, décelait d'autres puissances, peut-être plus formidables encore, par-delà cet horizon inconnu. Sa reine sorcière, ainsi que son ami sorcier, lui révélaient soudain des faiblesses redoutables.
« Stilgar, dit Alia, tu te trouves dans un vallon entre les dunes. Je suis sur la crête. Je puis voir là où tu ne vois pas. Et entre autres choses, des montagnes qui barrent l'horizon. »
Ces choses vous demeurent cachées, vous l'avez toujours dit.
Tout pouvoir est limité.
Et le danger peut venir d'au-delà les montagnes, dit Stilgar.
C'est cela, en quelque sorte.
Stilgar acquiesça et son regard se posa sur Paul.
Mais ce qui vient d'au-delà les montagnes, quoi que ce soit, doit franchir les dunes.